Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour, vous écoutez Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler d'un outil méconnu, les NIEF. Que se cache-t-il derrière cet acronyme ? Pour le découvrir, j'ai le plaisir de recevoir Stéphane Cordonnier, responsable scientifique au Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Cynthia.
Alors qu'est-ce qu'une SNIEF ?
Alors c'est un acronyme un peu compliqué, et derrière ce terme de SNIEF, ça veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Ce sont des zones d'inventaire de la biodiversité. Alors ces zones d'inventaire, elles sont réparties sur tout le territoire de la France. Ce ne sont pas des zones protégées. C'est bien des zones d'inventaire, c'est-à-dire c'est des secteurs où on a fait l'inventaire de la faune et de la flore et on les a mis un petit peu en avant parce que la biodiversité est un peu plus importante qu'ailleurs.
Alors quand vous dites plus importante, c'est en nombre, en diversité d'espèces, en espèces particulières ?
Alors effectivement, c'est plutôt qu'il y a des espèces particulières qui sont indicatrices d'un espace naturel moins soumis aux actions humaines qu'aux environs. Donc on va trouver des espèces rares, mais pas que, on va aussi trouver des espèces que tout le monde connaît. Par exemple, le castor, dans les montagnes, la marmotte, des oiseaux comme le martin pêcheur. Vous voyez, donc il y a des espèces que tout le monde connaît et qui permettent de dire qu'on est dans un espace quand même un petit peu mieux préservé des pressions humaines qu'aux alentours. Donc les SNIEF, il y en a deux types. On appelle ça les SNIEF de type 1 et les SNIEF de type 2. Les SNIEF de type 1, ce sont des petits territoires, c'est un petit peu la forêt que vous avez sur votre commune, par exemple, le petit espace naturel de proximité, je dirais. Et puis les SNIEF de type 2, ce sont plutôt des grands espaces qu'on va retrouver, donc par exemple les grands causses de Lozère, les volcans d'Auvergne. Pour les élus, c'est surtout les SNIEF de type 1 qui sont les plus intéressants à connaître.
Et pour quelles raisons c'est intéressant pour des élus de connaître ces zones ?
Alors, les SNIEF, donc c'est un très vieil inventaire, qui a une quarantaine d'années. Et donc, il y a 40 ans, on n'avait pas beaucoup de données sur le patrimoine naturel à l'échelle de la commune ou du territoire. Donc, c'est un inventaire qui a été mis en place à cette époque-là pour que les élus puissent savoir un petit peu finalement ce qu'ils avaient chez eux et qu'on puisse les alerter sur le fait que ponctuellement, il y avait des zones qui étaient quand même avec une biodiversité plus importante et surtout où les pressions humaines étaient un peu plus faibles. Donc c'est pas des zones sauvages des SNIEF, hein. C'est des zones où il peut y avoir de l'exploitation forestière, on peut avoir de l'exploitation agricole, il n'y a pas de souci. Mais par contre, c'est vrai que les pressions humaines sont en général un peu plus faibles, c'est-à-dire qu'on va avoir une exploitation agricole de type extensif, c'est-à-dire du pâturage de prairies naturelles. On va avoir des exploitations forestières plutôt aussi de coupe de bois, mais en conservant la continuité de la forêt ou les espèces présentes. Voilà. Donc ce sont des espaces où l'homme est présent, mais où la biodiversité a été quand même mieux conservée que dans les zones urbanisées, forcément, et aussi dans les zones où l'exploitation de la nature est plus importante.
Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans ces SNIEF ? À quel titre les conservatoires travaillent sur ce sujet ?
Alors, les conservatoires, nous, on travaille surtout sur le contenu, c'est-à-dire sur la qualité des données des espèces présentes. Donc, on vérifie qu'effectivement, il y a bien du castor, qu'il y a bien tel papillon, tel oiseau, tel libellule. Et ces données-là, elles sont remises à jour régulièrement, puisque bien sûr, la biodiversité évolue. Et donc, il faut qu'on ait quand même des SNIEF qui restent de bonne qualité. Et pour qu'elles soient de bonne qualité, il faut que les données soient quand même assez récentes. Donc, on a une période à peu près d'une douzaine d'années glissante. Donc, en fait, il faut que dans ces SNIEF-là, les données aient moins de 12 ans pour qu'on considère qu'elles soient encore valides. Donc, il y a un travail de mise à jour par les conservatoires qui est fait régulièrement. D'un point de vue technique, on contribue aux inventaires de terrain. Et puis, d'un point de vue plus gestion de base de données, on travaille avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour toute la gestion de la base de données informatique qui est en lien avec ces SNIEF et qui permet à tout à chacun d'avoir accès aujourd'hui sur Internet, à la fois au périmètre, aux données. Et tout ça, ça demande un travail assez important de saisie, de vérification de données, de transmission. Enfin bon, voilà, beaucoup de travail informatique qui est un peu souterrain, mais qui permet aussi aujourd'hui d'avoir un accès beaucoup plus facile qu'il y a 40 ans à l'information.
Vous dites tout à chacun peut y accéder, c'est-à-dire que n'importe quel internaute peut accéder à cette base de données et se documenter via cette base de données, ou ça reste quand même très technique, puisque généralement un inventaire, pour avoir été au Muséum d'Histoire Naturelle, c'est assez codifié. Je ne sais pas si n'importe qui peut s'y retrouver dans ce type d'inventaire. Ou est-ce que ça sert à faire de la vulgarisation, par contre?
Oui, alors l'inventaire, il reste quand même technique, donc il est accessible, mais effectivement, ça reste une liste d'espèces de plantes et d'animaux. Donc, la lecture n'est pas toujours évidente quand on n'est pas un naturaliste. Mais après, souvent, les collectivités font appel à des conseils. Donc, ça peut être le Conservatoire d'espaces naturels, ça peut être des bureaux d'études, ça peut être d'autres organismes, évidemment, qui peuvent les aider justement à traduire un petit peu ces données un peu techniques, scientifiques, de façon plus vulgarisée pour que localement, les gens voient un petit peu plus l'intérêt de leur forêt ou de leur prairie ou de leur marécage.
Quel est l'intérêt pour l'élu dans sa politique publique d'avoir cet outil en main? À quoi ça sert pour prendre quelle décision dans le cadre de quelle politique publique?
Oui, alors effectivement, les SNIEF, finalement, ce sont des outils de conseil pour l'aménagement du territoire. Et on va retrouver d'un côté les politiques de biodiversité. Donc l'élu peut s'en emparer pour répondre à des nouvelles politiques de biodiversité, comme par exemple aujourd'hui, vous savez, il y a une politique qui est le zéro perte nette de biodiversité. Donc s'il y a des impacts sur la SNIEF, il faut essayer de pouvoir les minimiser ou les compenser. Ça peut répondre aussi aux objectifs qui ont été rappelés par le président de la République il y a quelques années, de mettre en place 10% du territoire en zone de protection naturelle. Donc les SNIEF servent de conseil, en fait, entre guillemets, pour dire, ben voilà, vous voulez mettre en place quelque part une réserve naturelle, et ben regardez déjà dans votre réseau SNIEF s'il n'y a pas des espaces qui pourraient être intéressants. Par exemple, dans les parcs nationaux, il y a pratiquement la moitié de la surface des parcs nationaux en France qui sont concernés par une SNIEF. Donc, vous voyez, il y a un lien quand même assez fort entre finalement des outils de protection et puis l'inventaire initial qui a servi finalement à définir ces protections. On a ce cas-là aussi avec le réseau Natura 2000 qui s'est construit en grande partie à partir des données qui étaient connues dans les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique que sont les SNIEF. D'accord. Donc ça, c'est le premier volet. Et après, il y a des volets plus sur l'aménagement du territoire pour les élus, donc sur les définitions des corridors écologiques à l'échelle communale ou intercommunale ou même régionale dans le cadre des SRADET. Et puis, à l'échelle plus locale, il y a tout ce qui concerne surtout les plans locaux d'urbanisme, communaux ou intercommunaux. Donc là, on va avoir effectivement, souvent les élus, c'est là qu'ils découvrent le terme de SNIEF, hein, c'est quand ils refont leur plan local d'urbanisme, parce que c'est à ce moment-là, en fait, que les bureaux d'études qui les conseillent leur présentent un petit peu tous les enjeux du patrimoine naturel de leur commune. Et dans ce melting pot de patrimoine naturel, souvent les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique ressortent comme un des enjeux de la commune à conserver. Donc là aussi, les élus, ben, après, dans leur cadre de leur plan d'urbanisme, ils peuvent choisir de voir comment ils affectent ces zones-là dans les projets de la commune, de construction, mais aussi de poumons verts périurbains, de zones agricoles, etc.
Et par rapport à ces zones, de ce que j'entends, c'est vraiment un outil d'inventaire, donc contrairement à Natura 2000 ou des réserves, il n'y a pas une sanctuarisation de ces zones, mais elles sont à prendre en compte pour les protéger. Dans les PLU, il y a une obligation pour les élus de faire de la protection de la biodiversité en lien avec ces zones ou pas?
Il n'y a pas d'obligation. Concrètement, on n'est pas effectivement dans une réserve, mais il y a une forte incitation, on va dire. Donc bon, c'est un jeu un petit peu quand même dans un PLU, donc un plan local d'urbanisme. Si vraiment une commune ne prenait pas du tout en compte le zonage SNIEF, effectivement, l'État pourrait ne pas valider le PLU en considérant que ça n'a pas été assez pris en compte. Mais d'un autre côté, ce ne sont pas non plus des espaces figés. Donc il est possible de créer des zones constructibles en zone naturelle d'intérêt écologique et faunistique. Voilà. Ce n'est pas impossible de mettre en place des zones constructibles dans des SNIEF, mais le conseil, c'est plutôt d'essayer de les classer dans d'autres réseaux, donc par exemple en zone agricole. Ça peut être classé en espace boisé classé, donc ce qu'on appelle les EBC. Donc ce sont aussi des petits morceaux de bois dans la commune sur lesquels on n'aura pas le droit de faire de défrichement. Donc il y a des outils, même au sein du plan local d'urbanisme, pour préserver un peu ces aspects de biodiversité. Donc c'est plutôt du conseil, mais bon, effectivement, si vraiment il y avait vraiment une mauvaise prise en compte, ça pourrait quand même être négatif pour la validation du PLU.
Ils ont l'obligation de prendre en compte les SNIEF dans le cadre des PLU. Par contre, même s'il n'y a pas une sanctuarisation de ces zones, on est bien d'accord en fait.
Oui, c'est ça, exactement ça. C'est la prise en compte qui est obligatoire. Voilà, il faut en tenir compte, il faut les avoir localisés dans le PLU, il faut qu'il y ait une information là-dessus. Et effectivement, il faut quand même que le gros des zones soit quand même plutôt dans les zones préservées du PLU. Hein. Mais comme ils doivent prendre en compte d'autres choses dans les PLU, il y a énormément de zonages à prendre en compte, et des zonages environnementaux plus d'autres choses. Ils doivent aussi prendre en compte, par exemple, les zonages d'AOC viticole. De la même façon. Donc, il y a énormément de choses à prendre en compte. Donc, c'est bien dans cette philosophie-là, quoi. L'idée des SNIEF, c'est d'alerter les élus sur un zonage dont il faut prendre soin. Je pense que c'est ça le bon terme. C'est un zonage dont il faut prendre soin. Et après, c'est la responsabilité des élus locaux de l'intégrer dans leur politique territoriale.
Et vous, donc, en tant que responsable scientifique, vous participez à un inventaire. Sur quel territoire êtes-vous et pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous observez?
Alors, nous, on travaille sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes et on travaille donc sur l'ensemble des IEF de la région pour le compte de l'État. Donc, on a une mission d'assistance technique, si vous voulez, pour gérer ce réseau, les données techniques, les cartographies, etc., pour le compte de l'État. Les IEF sont quand même des espaces qui sont dans la région où je travaille, qui est une région de moyenne montagne, avec quand même, on va dire, tout le massif central, toute la partie alpine, on est quand même plutôt dans une région privilégiée en termes de conservation de la nature, où la pression humaine est assez faible. Donc les IEF sont quand même encore en bon état, mais il y a eu une étude qui a été faite il y a 2 ans par un autre organisme, le CEREMA, montre quand même qu'il y a quand même de l'urbanisation dans les IEF. Voilà. Donc on a quand même un peu plus de soucis, on va dire, sur les IEF qui sont en périurbain. Et c'est là où, effectivement, au cours du temps, il y a une attention peut-être plus particulière à avoir, parce que c'est là où la pression est plus forte, donc plutôt dans les plaines et dans les espaces périurbains où tout ce qui est mécanisable et proche des lieux de développement, les zonages sont un peu plus soumis à pression. Mais effectivement, après, quand on va dans les zones un peu plus escarpées du massif central, on a un peu plus, la nature est mieux préservée.
Est-ce que vous avez un exemple concret pour nos auditeurs à nous donner sur la préservation d'une zone qui serait périurbaine? Comment les élus peuvent malgré tout urbaniser en faisant des poches de préservation? Vous avez des exemples?
Moi je connais plus l'agglomération de Clermont-Ferrand, les entours de Clermont-Ferrand, donc c'est à peu près 450 000 habitants, donc c'est une agglomération de taille moyenne, et donc cette agglomération elle est entourée par des zonages IEF, donc on a à la fois des côtes sèches un peu embroussaillées qui sont en limite complète de la ville, donc là les élus s'en sont emparés pour mettre en place des protections fortes sur ces IEF, avec un autre dispositif qui s'appelle les espaces naturels sensibles, qui sont portés par le conseil départemental, et donc avec des moyens du conseil départemental et des élus locaux, il y a une volonté de faire de ces espaces vraiment, vraiment très périurbains, c'est-à-dire qu'on est à la limite des dernières maisons, des espaces justement de poumons verts de la commune. Après, on a une autre commune qui est à côté, toujours dans l'agglomération, qui a choisi un autre mode de protection, un autre outil de protection, mais là aussi, l'objectif est un petit peu le même, c'est de préserver plutôt un paysage peut-être un peu moins sauvage, mais plutôt du paysage rural un peu traditionnel, avec par exemple la replantation de plusieurs milliers de noyers, la conservation un peu de pâturage et d'agriculture biologique. Voilà, d'essayer de garder quand même, alors qu'on est vraiment là aussi coincé entre les agglomérations et puis les cultures un peu plus, les cultures céréalières, des espaces un petit peu de transition. Et puis la dernière commune, toujours en zone périurbaine de Clermont-Ferrand, elle a fait le choix de classer une partie des forêts en espaces boisés classés dans son PLU, par exemple. Et ce sont des forêts qui sont souvent en pente, qui n'ont pas un intérêt de production sylvicole important. Donc là, le choix de la commune, c'est de dire, on va préserver ça, parce que ça permet à la fois d'avoir aussi des espaces boisés en périurbain, et aussi de préserver des risques d'érosion des sols, parce qu'il y a aussi d'autres enjeux, sur des terrains qui sont un petit peu mouvants. Ça peut être aussi important de préserver ces forêts.
Sur ces trois logiques, il y en a deux où j'entends qu'il y a des pentes ou ce qu'on peut appeler aussi parfois des coteaux. Par contre, c'est pas dans les IEF qu'il y a la cartographie du terrain. Je suppose qu'on rapproche ces inventaires de la cartographie pour dire là, c'est peut-être moins urbanisable, il y a plus de risques de glissement de terrain, par exemple. Et de fait, en croisant ce type de données, on se dit c'est là, on va sanctuariser. C'est ça l'idée, un petit peu.
Oui, c'est ça l'idée. C'est-à-dire que il y a forcément le patrimoine naturel ne justifie pas tout, donc il faut aussi croiser avec les autres risques. Donc les deux risques principaux qu'on va avoir dans la plupart des communes, c'est bien sûr les problèmes de risque d'inondation. Donc là, on va effectivement trouver à la fois une concordance entre des périmètres de restriction d'urbanisation dans les zones inondables et souvent les IEF qui sont aussi dans cet endroit-là, parce que les bords de rivière avec leurs forêts associées sont des espaces qui sont souvent très intéressants. Donc là, on peut avoir effectivement un enjeu commun. Et l'autre grand enjeu, c'est celui que vous évoquez, c'est-à-dire tout ce qui va être un petit peu les problèmes d'érosion sur les fortes pentes, où là aussi, ces zonages naturels vont aller s'ajouter à d'autres enjeux qui peuvent être effectivement des glissements de terrain. Même sans parler de glissements de terrain, on a sur notre région des terrains qui sont assez marneux. Vous savez qu'avec les sécheresses qu'on a actuellement, on peut avoir des mouvements de terrain qui font que les maisons se fissurent. Donc les constructions dans ces terrains un peu pentus, marneux, c'est pas forcément terrible. Donc ça permet aussi de, dans l'aménagement du territoire, d'aller vers une autre logique de, on va dire, de poumon vert pour les zones périurbaines.
Eh ben, je vous remercie Stéphane de nous avoir fait découvrir cet outil qui intervient dans l'aménagement urbain et je vous souhaite un bel été.
Merci.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.